Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter au programme jusqu'à 13h ce samedi, la semaine des humoristes. Le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis dans une trentaine de minutes, la mondialisation en question. Libre-échange contre protectionnisme, c'est un vieux débat, mais débat ravivé aujourd'hui par les attaques de Donald Trump contre l'OMC, contre les accords de libre-échange, par des mesures protectionnistes et l'Union Européenne dans tout ça. Et quel est le coût humain de la mondialisation? L'équipe du grand face-à-face s'ouvrira le débat avec l'un des grands spécialistes de ces sujets. Il a négocié un nombre considérable d'accords commerciaux et il croit que la mondialisation est un progrès. Ancien commissaire européen, ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy nous rejoindra tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver en grande forme malgré la grippe, Gilles. Avant votre duel, la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par Anne-Cécile Perrin. Dans l'actualité, la recrudescence d'actes antisémites. À Paris, un restaurant Bagelstein vandalisé par un tag. Écoutez la réaction de Tanguy Bassureau.
Bref, en 2019, un ou des gonzes passent devant Bagelstein, se disent « ça sonne juif ce truc » et ils sont tellement cons que le jour où ils verront la pancarte d'entrée du Liechtenstein, ils feront pareil. Hein. Et là, ils écrivent « Juden » dessus, comme il y a 80 ans outre-Rhin, quand les Allemands n'étaient pas ces types placides en claquettes de cuir, qu'il était dans les Landes, font crever la faune marine en répandant dans l'eau leur crème solaire indice 124. Or, à la limite, si on taguait sur la vitrine de la brioche dorée la phrase « on dit chocolatine, pas pain au chocolat, bande de chiens », ça passerait, mais le mot « Juden » Juden, historiquement, c'est plus chargé que la laine d'un rocker mort dans son vomi. Donc écrire Juden sur la vitrine de qui que ce soit, c'est atroce. Tout le monde est d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, merci de ne pas me dire sur les réseaux sociaux à la suite de cette chronique, je m'en fous de vous.
Et dans l'actualité aussi, l'affaire de la Ligue du LOL. Pablo Mira a une idée très claire et très originale du cyberharcèlement.
La réalité, elle est ce qu'elle est, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, il n'y a pas un seul pays au monde qui ne connaisse pas de cyberharcèlement. Bon, sauf peut-être voilà la Suède à la rigueur, mais ces gens-là ne sont pas humains. Hein, ils sont mi-saumon, mi-table basse. Donc le cyberharcèlement, on en a besoin, nom de Dieu. D'autant plus que nous, les mecs, ben voilà, je le dis, on est trois, voilà, on est en minorité aujourd'hui. C'est notre dernière zone de liberté. Égalité égale minorité, je sais. C'est notre dernière zone de liberté. Ouais, je suis désolé, parce que si on nous retire le cyberharcèlement, il va nous rester quoi, nous, hein? L'absolue totalité du reste de la vraie vie, c'est ça? Franchement, si c'est pour vivre dans un monde pareil, moi je préfère fuir au Venezuela avec Fly Rider.
Et puisqu'il y a une ligue du LOL, Charline Vanhoenacker a imaginé sa version féminine, la team mort de rire.
Bah, c'est vrai qu'il vaut mieux pas être notre cible, hein, on est comme des hyènes. Et on s'est fait les dents sur un tout jeune mec qui voulait devenir journaliste alors qu'il avait un blog sur le foot. Déjà le sujet de merde. On lui a pourri son site, il recevait 400 commentaires haineux par jour, il comprenait pas pourquoi, il était tout paumé, on était mort de rire. Et quand on a l'ascendant sur les mecs, ça les rend ouf, hein. Ils sont à nos pieds. Hein. Moi j'ai qu'à claquer des doigts pour me taper la moitié du 11e arrondissement de Paris. Faut dire que toute la journée, je bosse sur des problématiques dites progressistes, type égalité homme-femme. Je pisse de la copie bien pensante à longueur de journée. Le soir, j'ai besoin de me détendre. Alors, la dernière fois, il y a Fanny. Fanny, c'est la numéro 2 de chez Grazia. Elle est terrible, j'adore. La dernière fois, pour déconner au boulot, on a fait un raid. On avait appris que le frère de Jérôme était malade. Jérôme, c'est un gars tout naze qui écrit de la merde pour SoFoot et en plus, il est noir. Du coup, les copines avec moi, on a floudé son compte avec des photos du Ku Klux Klan. Mais bon, moi, j'étais dégoûtée, j'ai pas pu y aller parce que j'avais mon édito à finir sur Nelson Mandela.
Tout autre sujet, la réforme de l'éducation nationale. Faut-il rendre la présence du drapeau tricolore et des paroles de la Marseillaise obligatoires dans les salles de classe? Guillaume Meurice a mené l'enquête.
J'en ai rencontré, ils ont un avis, notamment ce jeune.
Je pense que c'est les bases, comme aux États-Unis.
Bon, est-ce que vous connaissez les bases alors?
Oui.
Qui a écrit la Marseillaise?
C'est Rougier de Lille.
Ça c'est bien, à quelle occasion?
Pour la guerre 14-18.
Allez, on n'est pas à un siècle et des brouettes près. Ouais, on a dit les bases, hein, c'est assez large, c'est des bases un peu larges, quoi. Disons que bah, c'était entre la fin du Jurassique et la victoire de France Galles à l'Eurovision. Et c'est important de savoir ce que signifient, par exemple, les couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau français, les bases, hein, donc.
Je dirais le rouge, le sang de la Révolution, le blanc... blanc de la paix et puis le bleu de l'UMP.
Le bleu de l'UMP.
Ouais, parce que bon, l'UMP. Les socialistes font un peu n'importe quoi en ce moment, alors. Il y a peut-être un retour qui s'impose.
Hein. Ok. On est sur des bases assez larges, hein, quand même. Liberté, égalité, Jean-François Copé.
Et puis éducation toujours avec une nouvelle collection de poupées Barbie, poupées inclusives. Les enfants veulent du réel, Tanguy Pastureau a un message pour eux.
Allez, ce matin, on vous dit tout, les chérubins. D'abord, comment on fait les bébés? C'est simple, le parent 1 rencontre le parent 2 sur Tinder. Ils mettent la petite graine. Parfois, si c'est en club coquin, il y a le parent 3 et le parent 4 qui regardent. Et 9 mois après, tu es là. Et là, la galère commence, les pieux-pieux. On dort plus, on a la même vie que les matinaliers à France Inter. Et le parent 1, épuisé, quitte le 2. Là, il retrouve sa vie de célib. Il rencontre les parents 3 à 44 en l'espace de 7 mois. Puis, il décuite, parce que les grands, ils boivent pas que du cacolac, les petits tout. Et il se dit, je vais supplier le parent 1 de me reprendre. Mais c'est trop tard, parce qu'il est mort. Hein, on dit la vérité, les minouches. Il a fait du vélib dans un couloir partagé bus vélib. Le bus a gagné. Le bus gagne toujours. Allez, les pieux-pieux, bonne journée. Amusez-vous bien. Vous avez au choix la Barbie gilet jaune, version 1 ou plusieurs yeux, selon si on a utilisé ou non DLBD, la Barbie SDF et la Barbie Alain Juppé, qui fait Bordeaux-Paris dans son camping-car pourri. Au revoir, les pieux-pieux.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. Le grand face-à-face continue avec le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Natacha Polony, Gilles Finkelstein, on démarre avec l'école qui a fait beaucoup rire les humoristes d'Inter. On parle étonnamment peu d'éducation à l'Assemblée nationale, mais il en est question à l'occasion de l'examen de la loi École de confiance. Et les députés ont donc voté pour que les drapeaux français et européens soient présents dans toutes les classes du premier et du second degré. Les paroles de l'hymne national également. Écoutez le député LR Éric Ciotti, qui est l'auteur de l'amendement voté par les députés.
Faire aimer la France dès le plus jeune âge, je considère que c'est quelque part aussi une digue contre les multiples fléaux qui menacent notre pays. Aimer la France, faire aimer la France dès le plus jeune âge, avoir ce sentiment patriotique, je crois que personne ne peut aujourd'hui, sincèrement, hormis quelques esprits marqués idéologiquement, s'y opposer.
Éric Ciotti, mercredi dernier, qu'en pense la spécialiste de l'éducation, Natacha ?
J'en pense qu'il est assez effarant qu'on ne parle d'école que quand il s'agit de décisions totalement anecdotiques. Parce qu'en effet, c'est totalement anecdotique. Alors, ça n'a rien de choquant, de dramatique qu'on mette le drapeau français et le drapeau européen dans les classes. Quand j'entends, par exemple, la FCPE expliquer que c'est un gris-gris identitaire, je suis consternée. Non, c'est pas un gris-gris identitaire, c'est un signe d'union de notre nation. C'est notre rapport à notre histoire et au peuple français qui se construit. Donc, voilà. Simplement, ça ne changera rigoureusement rien à la question du sentiment d'appartenance des enfants, qui se construit de façon beaucoup plus complexe, notamment à travers la maîtrise de la langue. Donc je préférerais qu'on réfléchisse à la question un peu plus importante de savoir pourquoi nous avons l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire une école où les enfants de pauvres sont condamnés à échouer à l'école. Ça me semble plus important. Mais encore une fois, bon, c'est une anecdote.
Gilles.
Oui, je suis assez d'accord avec Natacha. D'abord, ce n'est pas l'amendement d'Éric Ciotti. L'amendement d'Éric Ciotti
ne portait que sur le drapeau français.
Que sur le drapeau français et pas sur le drapeau français et sur le drapeau européen. Et l'amendement d'Éric Ciotti proposait qu'il y ait chaque semaine les classes qui assistent à la levée du drapeau. Donc on était quand même dans autre chose. Dans autre chose d'ailleurs qui correspond assez peu à notre tradition si l'on accepte la période de Vichy. Bon, donc on est revenu dans des eaux qui sont des eaux acceptables. On peut être circonspect sur la manière dont ça s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu réellement de débat sur un amendement qui a été adopté nuitamment. Il y a une forme de piège, et si vous avez raison, la FCPE, d'une certaine manière, y tombe. Donc, c'est difficile d'être réellement opposé. Le drapeau et l'hymne font partie des symboles de notre pays. Et en même temps, l'identité nationale telle qu'on veut la construire de manière positive, si on n'est pas dans l'instrumentalisation qu'a essayé de faire la droite et l'extrême droite depuis quelques années, c'est tellement plus que cela. C'est tellement plus long que cela et c'est tellement plus riche que cela. Une histoire, évidemment, une géographie, une culture, une langue. Et sur la Marseillaise, pour terminer par là, c'est bien de l'afficher, c'est mieux, et les extraits qu'on voyait,
oui,
le montraient, d'essayer d'en comprendre le sens, ne serait-ce que le fameux sang impur dont on doit abreuver nos sillons.
Mais c'est une vieille histoire en plus, la Marseillaise à l'école, Natacha.
Le fait, par exemple, d'apprendre par cœur au moins le premier couplet et le refrain de la Marseillaise, c'était un programme qu'avait prévu Jean-Pierre Chevènement, si je ne me trompe, en 84.
Absolument.
Et bon, là encore, ça me semble la base, que notre hymne national soit à peu près connu. On pourrait même pousser un peu plus loin. Hier, Mona Ouzouf, sur cette antenne, disait que si on pouvait, enfin que si on faisait apprendre par cœur quelque chose à des enfants, elle trouvait que ça n'était pas plus mal. Et en effet, l'apprentissage par cœur d'un texte qui permet de mémoriser du vocabulaire, des structures grammaticales, c'est très bien. On pourrait aller plus loin, apprendre quelques couplets également intéressants de la Marseillaise, le couplet des enfants. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui permettent ensuite de s'accrocher et de raconter l'histoire. Gilles Finkelstein a tout à fait raison. Ce qu'il y a derrière, c'est la question du peuple qui s'assemble pour défendre la patrie, ses Valmy, c'est tout ça. Si ça pouvait passer dans l'esprit des enfants et qu'ils comprennent ce que ça signifie dans notre monde contemporain, là, ça commencerait à devenir intéressant.
Et puis, lutte des classes toujours. Cette semaine, les députés ont voté un amendement de la députée La République En Marche, Valérie Petit. Amendement qui stipule qu'à l'avenir, les mentions père et mère seraient remplacées dans les formulaires de l'éducation nationale par parent 1 et parent 2. Ça vous fait sourire ?
Non, disons que c'est assez anecdotique, ce ne sont que des formulaires scolaires, donc arrêtons de hurler, ce n'est pas l'état civil, hein, ce sont bien des formulaires scolaires. Il y a malgré tout quelque chose d'assez frappant dans cette démarche, c'est le fait qu'il s'agit d'éviter que des familles homoparentales ne se sentent discriminées par le rappel qu'elles ne constituent pas la norme. Et ce qui doit nous obliger à réfléchir, c'est ce rapport entre minorité et majorité. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que, malgré tout, nous sommes dans un monde où l'idée de ne pas discriminer des gens qui ne sont pas dans la norme majoritaire aboutit à la modification d'un fait, d'un élément pour l'ensemble de la population et donc pour tous les autres. Donc ça veut dire que cette question du rapport minorité-majorité a une influence sur nous. Alors en revanche, il aurait quand même été un petit peu plus malin de mettre représentant légal sur une deuxième ligne, représentant légal, sans hiérarchie, et chacun précise s'il est père, mère, repère, remère, ou, enfin, vous voyez, plutôt que de mettre parent 1 et parent 2, il y a même une association de familles homoparentales qui dit, ça va poser problème, parce qu'en effet, la question de savoir qui est le parent 1, qui est le parent 2, va commencer à poser problème. On est dans une aberration. C'est idiot.
J'ai lu beaucoup sur Twitter, notamment, en fait, les opposants traditionnels au mariage pour tous se récriminaient et hurlaient devant parent 1 et parent 2. C'est le bal des faux culs.
Pourquoi ?
Vous connaissez la célèbre formule de Bossuet, « Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils maudissent les conséquences ». La cause, c'est que la gauche, Lionel Jospin d'abord avec le Pax, François Hollande ensuite avec le mariage pour tous, a reconnu le mariage de personnes du même sexe. La conséquence, et la conséquence inévitable, c'est que, du point de vue administratif, c'est vrai pour les formulaires des enfants, c'est vrai pour les formulaires de déclaration d'impôts, c'est vrai pour les formulaires, évidemment, de mariage, et bien on tire les conséquences. Donc, quand vous déclarez vos impôts, ce n'est plus le mari et la femme, c'est déclarant 1 et déclarant 2. Ben, c'est exactement la même chose pour les enfants. Donc, c'est le bal des focus. Si on veut s'y attaquer, on a eu le débat et on peut continuer à avoir ce débat-là. Mais il ne faut pas le prendre de biais, il faut le prendre de face. De face, c'est la question du mariage et ce n'est pas les conséquences administratives qu'on en tire. Alors, j'ai pu être sensible à l'humour de certains d'entre eux, hein, quand sur Twitter ils disaient bah, maintenant ça ne va plus être la gloire de mon père, ça va être la gloire de mon parent 1, et ça va être le château de ma mère, le château de mon parent 2. C'est drôle, mais il faut être cohérent.
Le grand face-à-face. Ali Badou sur France Inter.
Et dans l'actualité aussi, cette semaine, Alain Juppé qui a pris la décision de quitter la mairie de Bordeaux et de rejoindre le Conseil constitutionnel.
Je n'ai pas pris ma décision de gaieté de cœur. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. À qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Et qui m'a tant donné en retour.
une rupture amoureuse un jour de Saint-Valentin. Je vais trahir un secret, mais vous, l'homme de gauche, vous avez été ému par l'émotion d'Alain Juppé, Gilles.
Oui, je suis pas un juppéiste de la première heure. Hein. C'est pas.
Vous êtes particulièrement émotif.
Et alors peut-être que j'ai un cœur d'artichaut, peut-être que c'est lié à la grippe qui me fragilise un peu. Mais j'ai trouvé que c'était, que son émotion était émouvante. Alain Juppé, c'est quand même 40 ans d'engagement politique au service du pays. C'est une page qui se tourne. Et au-delà de sa nomination, les mots qu'il prononce sur ce qu'est pour lui devenu la politique doivent nous faire, je crois, réfléchir. Parce que il part pas seulement pour être nommé, il part aussi parce que il n'en a plus le goût, il n'en a plus le goût parce que il considère, et quand on observe l'évolution du débat public, on peut le comprendre, que le climat politique est devenu délétère.
Il dit, Alain Juppé, dans ce discours de départ, ce discours de rupture, l'esprit public est devenu délétère, la montée de la violence sous toutes ses formes, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, la stigmatisation des élites dont un pays a pourtant besoin, bref, dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public est difficile à vivre et lourd à porter. Natacha.
Sur le constat, il a sans doute raison. Simplement, je voudrais rappeler une chose. En 1995, Jacques Chirac est élu après une campagne sur le thème de la fracture sociale et sur l'idée qu'il est absolument urgent de résorber cette fracture sociale, parce qu'elle se creuse et qu'elle détruit petit à petit la substance même du pays. Cette idée qui relève d'une forme de gaullisme social ou de conception républicaine au sens strict, est portée à l'époque par Philippe Séguin, mais c'est Alain Juppé que Jacques Chirac nomme à Matignon. Et le 26 octobre 1995, Jacques Chirac annonce qu'il change totalement de politique. Il ne fera pas la politique pour laquelle il a été élu. La fracture sociale, on s'assied dessus et on va continuer une politique d'adaptation à des règles qui sont des règles qui, en fait, font rentrer la France dans une forme de dérégulation et dans une forme d'obligation de respect de normes purement économiques. Donc, il y a un problème démocratique majeur qui aboutit à 3 semaines de grève absolument énormes qui ont fait reculer Alain Juppé, mais, en fait, cette politique-là est passée. Et nous en voyons les conséquences aujourd'hui, dans le discrédit des politiques, dans la colère d'une part de la population française qui s'est sentie totalement oubliée. Donc cette haine que dénonce Alain Juppé, peut-être qu'il a sa part dedans, un tout petit peu au moins.
Gilles,
je crois que le tournant de 95 est une... Il dévoile une réalité. Et je crois que la question est moins de savoir si c'est Alain Juppé le responsable du tournant de 95. D'une certaine manière, c'est Jacques Chirac qui est président de la République, qui l'assume et qui l'annonce, que de savoir si la campagne de 1995 n'a pas été une grande illusion. Parce que dans une campagne que la gauche ne pouvait pas gagner, le match entre Édouard Balladur et Jacques Chirac, avec un Jacques Chirac qui est parti de nulle part, abandonné par tous, a été une campagne qu'il a faite sur la gauche pour essayer justement, je crois, dans une visée qui était une visée essentiellement tactique, malheureusement, de l'emporter.
On s'en souvient, manger des pommes, flatter le cul des vaches.
Sur les convictions politiques de Jacques Chirac, nous nous rejoignons totalement. Mais ce que vous êtes en train de dire, Gilles, est tout de même profondément inquiétant, puisque ce que vous nous expliquez, c'est que tout de même, le peuple français a voté pour une politique. Celui qui était censé porter cette politique n'en croyait pas un mot. Et finalement, si je vous comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que de toute façon, tout ça ne pouvait pas être fait et qu'il n'y avait qu'une seule politique possible qui était celle portée par Alain Juppé. Or là, on rentre dans ce discours que tiennent les politiques depuis 30 ans. There is no alternative. C'est du thatcherisme, Tina. Et c'est le discours qu'a tenu aussi Emmanuel Macron. C'est sa première interview en tant que ministre de l'économie. Encore une fois, j'y vois une continuité.
Je le pense d'autant moins par la preuve. C'est que, en 1997, quand Lionel Jospin a été élu, il n'a pas fait la même politique que celle d'Alain Juppé.
Alors, j'ai tendance à penser que si, sauf sur les questions sociétales et sauf sur le reste, mais sur les questions économiques, il a fait la même politique, il a même privatisé beaucoup plus que ne l'avait fait la droite.
Bon, alors tout ça, on peut refaire l'histoire.
Et oui, mais c'est crucial.
Encore une fois, bien sûr.
Le traité européen que signe, le traité budgétaire que signe à l'époque Lionel Jospin, alors qu'il a prétendu qu'il allait le renégocier, on a l'impression de vivre exactement ce qu'on vivra avec François Hollande quelques années plus tard. C'est exactement le même processus. Il y ajoute juste un petit codicille sur la croissance à la fin, c'est-à-dire rien. Et on est dans l'acceptation. Il est allé main dans la main avec Jacques Chirac pour décider de la privatisation des services publics en Europe.
Si vous survivez, Gilles,
oui,
Alain
pardon.
Juppé,
on va revenir... Pardon, là, j'abuse de votre faiblesse, Gilles, et j'en suis désolée.
Au sujet, mais son départ pour le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il va manquer à la droite d'un mot et on va changer de sujet?
Je ne sais pas où était Alain Juppé.
Il était candidat à la candidature de la droite républicaine.
Non, il était chez Emmanuel Macron.
Non, ça ne m'a pas échappé. Mais ça, c'était pour les primaires de la droite. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il était aujourd'hui, disons, dans un second cercle de la Macronie. Et d'ailleurs, on voit que là où la nouvelle politique rejoint merveilleusement l'ancienne, c'est que, eh bien, le président du Sénat a nommé un homme de droite et que le président de l'Assemblée nationale et le président de la République ont nommé l'un et l'autre un macroniste.
Trois hommes pour trois postes, oui. Pas de femmes. Et il va rejoindre le Conseil constitutionnel où il retrouvera Laurent Fabius. Et un chassé croisé puisqu'Alain Juppé va remplacer Lionel Jospin. Autant de personnes qui ont rêvé d'être président de la République et qui n'y seront pas arrivés.
C'est vrai, c'est une forme d'ironie de l'histoire. On essaye depuis des années, et on a raison, de faire en sorte que les anciens présidents de la République qui sont membres de droit, ce qui est une anomalie, ne le soient plus. Et de fait, ceux qui n'ont pas réussi à devenir président de la République, qui ont été Premier ministre mais qui n'ont pas réussi à devenir président de la République, le deviennent à leur tour membres du Conseil constitutionnel. En revanche, l'autre point sur le déséquilibre, en un mot, vous avez raison, il y avait jusqu'à présent un équilibre dans les nominations depuis une dizaine d'années entre les hommes et les femmes. Il y avait un équilibre entre les responsables politiques et les juristes. Là, ce sont trois hommes, trois responsables politiques. Cet équilibre-là a été rompu.
En effet, et la question, me semble-t-il, à se poser est de savoir s'il faut continuer à les appeler des sages.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Et dans l'actualité, ce scandale, la Ligue du LOL, ce groupe Facebook composé d'une trentaine de journalistes, tous accusés d'avoir participé à des campagnes de harcèlement, le plus souvent sexistes, sur les réseaux sociaux et au début des années 2010, avec des canulars souvent très cruels, évidemment souvent anonymes. Comment lutter contre la haine et le harcèlement en ligne? C'est la question que pose cette affaire, Natacha?
Pas seulement. Il y a différentes entrées dans cette affaire-là. Il y a la question, évidemment, de l'esprit de bande et du sentiment de toute-puissance et de ce que ça réveille de bassesse chez beaucoup d'êtres humains dans tous les milieux, vraiment de façon tout à fait universelle. Il y a la question spécifique du sexisme dans chaque milieu professionnel et de la façon dont chacun essaye de se distribuer les postes et de les gagner en éliminant des concurrents potentiels. Et de ce point de vue-là, les femmes peuvent apparaître comme des concurrentes. Et on voit très bien la mécanique qui s'est mise en place. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant là-dedans. D'abord, il y a ce principe de l'arroseur arrosé, ou plutôt du moralisateur, de l'inquisiteur qui tout à coup est dévoilé comme un tartuffe.
Comment ça ?
C'est-à-dire que tous ces gens qui aujourd'hui sont accusés de cela font partie de ceux qui ont développé un journalisme très donneur de leçons, très moralisateur sur le progressisme et justement sur les sujets sur lesquels ils sont attaqués aujourd'hui. C'est cela qui est assez intéressant. Et enfin, je crois que la dimension pour moi la plus importante, c'est le fait que cela révèle le poids qu'ont pris les réseaux sociaux à un moment dans le journalisme. Ces gens ont acquis une place dans des rédactions parce qu'ils étaient implantés sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, et j'espère qu'on en sort un peu, où pour progresser dans le journalisme, il valait mieux être puissant sur Facebook ou sur Twitter que d'être capable d'aller rencontrer la France profonde dans des reportages. Et je pense que nous avons la conséquence aussi de la défiance vis-à-vis des journalistes aujourd'hui.
Gilles.
Alors, je suis largement d'accord avec Natacha. L'effet de bande, qui n'est pas quelque chose qu'on a pu connaître dans les cours de récréation depuis fort longtemps, mais qui est là amplifié par l'effet démultiplicateur des réseaux sociaux. Je suis frappé, moi, pas aussi par la rapidité et la netteté des sanctions partout. Ceux qui ont été...
Mis à pied ou licenciement ?
Oui, mis en pied ou licenciement extrêmement rapide parce que, en fait, il y a un effet de marque pour les journaux dans lesquels il collabore. Et que le simple fait d'avoir comme collaborateur quelqu'un qui est marqué par cette action-là est un obstacle, qui est un obstacle pour eux d'Irimon, même si parfois les sanctions peuvent être rapides, qu'on sait exactement ce que chacun a fait. Et puis le dernier débat, c'est la question de l'anonymat, qui a quand même été beaucoup soulevé par cette affaire, et je crois soulevé souvent à tort. En l'espèce, beaucoup n'étaient pas anonymes, et c'est précisément parce qu'ils n'étaient pas anonymes que leurs actions avaient du poids, et parce que l'anonymat sur Internet n'est pas une réalité. Si vous faites une infraction, même si vous êtes anonyme, eh bien vous êtes retrouvé.
Le grand face-à-face continue avec le débat.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
La mondialisation en question dans le grand face-à-face, on l'a dit heureuse pour commencer, puis douloureuse. Et si nous assistions maintenant à un nouveau tournant de la mondialisation, comment faire face à un climat marqué par l'angoisse, la peur? Après des décennies durant lesquelles dominait l'espoir d'un monde meilleur, je ferme les guillemets, ces mots ne sont pas d'un météorologue, mais de l'un de ceux qui connaissent le mieux les enjeux de la globalisation. Ancien commissaire européen, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, il publie avec Nicole Gnesotto, Où va le monde chez Odile Jacob. Bonjour Pascal Lamy.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous n'êtes pas météorologue, mais vous avez passé des années à essayer de réunir les États pour aboutir à des échanges commerciaux plus fluides, pour essayer de faire en sorte que le monde profite de ces échanges et du libre-échange en particulier. Trump et nous, c'est le sous-titre de ce livre que vous publiez. Donald Trump est-il le seul à pouvoir faire aujourd'hui, au fond, ce dont rêveraient beaucoup, notamment beaucoup d'Européens, dénoncer les accords commerciaux, imposer sa loi, imposer des mesures protectionnistes sans craindre le retour du boomerang? Est-il le seul à être libre de ses choix?
Bon, d'abord, si on regarde les chiffres, les Européens ne sont pas protectionnistes. Il n'y a pas, et de très loin, une majorité d'Européens pour considérer ce que certains font dans notre hexagone chéri, que l'Europe est l'idiot du village global, qu'elle est trop ouverte par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, etc. Ça n'est pas la réalité. Et donc, comme la plupart des Européens sont raisonnables, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Mais il est vrai que cette globalisation, qui a des côtés positifs et des côtés négatifs, et donc quand quelque chose est à la fois bien et pas bien, bah, faut essayer d'en prendre le bien et d'en limiter les dégâts, ce que j'ai appelé à l'époque maîtriser la mondialisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons atteint un niveau d'interdépendance des systèmes économiques qui n'est pas matché par un niveau de régulation correcte de la globalisation, et notamment en matière commerciale. Et de ce point de vue-là, Trump, qui a tort sur tout, qui se trompe complètement sur tout ce qu'il y a d'économique, de social, de politique, mais qui est quand même un génie politique, un mauvais génie politique, mais des génies, il y en a des bons, des mauvais, il n'a pas tort de dire, par exemple, que les règles du commerce international ne disciplinent pas assez un certain nombre de pratiques chinoises. Sur ce point, il a raison. C'est d'ailleurs ce que les Européens ont dit depuis un bon moment. Là où il se moque un peu du monde, c'est qu'une des raisons pour lesquelles ça s'est pas fait avant, c'est que les États-Unis n'étaient pas chauds pour le faire. Bon, mais la vérité, et regardons le monde tel qu'il est, les règles de la globalisation ne sont pas suffisantes pour l'intensité de cette globalisation, et il y a un certain nombre de populations, notamment dans l'Occident, qui dérouillent. Ça n'est pas le problème de la globalisation, c'est le problème de l'insuffisance des systèmes sociaux. Et on voit bien d'ailleurs.
Et on va en parler justement.
Qu'ils sont plus durs aux États-Unis qu'en Europe. C'est la raison pour laquelle Trump a été élu aux États-Unis, et je ne crois pas qu'il serait élu en Europe.
Natacha.
Il me semble que là, vous êtes en train de nous dire, bon, en gros, que d'abord, bon, quand on est raisonnable, on trouve ça quand même formidable, le libre-échange, et qu'on n'est pas protectionniste. Moi, je ne sais pas qui est totalement protectionniste ou qui ne l'est pas. Enfin, vous voyez, on peut penser des régulations sans être protectionniste. Mais ça, c'est un préalable. Simplement, ce qui me semble intéressant, c'est que vous nous parlez de la globalisation, mais cette globalisation, elle doit aussi se lire dans le cadre d'un rapport de force géopolitique. C'est d'ailleurs ce que fait votre co-auteur plus que vous dans le livre.
C'est pour ça que c'est un livre de dialogue.
C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant. Mais parce que on ne peut pas parler de cette globalisation sans parler aujourd'hui d'un impérialisme américain s'opposant à un impérialisme chinois, avec des Européens dont la question qu'ils devraient se poser est la suivante: comment exister face à cela. Or, pour l'instant, ce n'est absolument pas ce que fait l'Union européenne.
Là,
et pour différentes raisons
d'accord.
sur lesquelles on reviendra.
Je ne suis pas d'accord sur ce diagnostic. Vous avez raison de dire que ce monde sera dominé par une rivalité sino-américaine ou américano-chinoise dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Ce n'est pas forcément un impérialisme, qui est un mot un peu commode et un peu daté. Mais en tout cas, ce sont deux pays puissants. Et si l'Europe ne se constitue pas en puissance, et elle doit le faire, et elle commence à le faire, alors effectivement, nous restons d'être ballottés par cette rivalité.
Et c'est assez frappant d'ailleurs, et c'est intéressant, on va ouvrir le débat avec Gilles Finkelstein dans un instant. Vous écrivez que ce n'est pas le protectionnisme qui améliorera la justice sociale, qu'il est trop commode de faire du libre-échange le bouc émissaire de la mondialisation, et que on peut imaginer qu'on puisse civiliser la mondialisation. Et on va en parler justement, Gilles, si vous retrouvez la santé et votre voix.
Je vais essayer. Pascal Lamy disait à l'instant que d'ici 20 ans, le monde sera dominé par les États-Unis et par la Chine. Ce qui est frappant quand on regarde le monde aujourd'hui, c'est que c'est un monde, Laurent Fabius a utilisé cette expression et je trouve qu'elle est assez juste, qui est un monde apolaire. Après avoir eu un monde bipolaire du temps de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, on a pensé avoir un monde unipolaire avec les États-Unis, seule puissance après la chute du mur de Berlin. On a espéré un monde multipolaire, notamment au milieu des années 2000 et après la crise financière. Et on a aujourd'hui un monde qui est un monde sans régulation. Et dans lequel la question de départ d'Ali était, est-ce que Donald Trump est le seul à être libre ? En tout cas, on est dans un monde dans lequel il est plus facile d'agir de manière unilatérale, a fortiori lorsque l'on est les États-Unis. Oui, ça ne veut pas dire qu'il puisse faire tout ce qu'il dit qu'il fait, il en fait même beaucoup moins, mais c'est plus facile quand on est les États-Unis. L'Europe ni ne veut, ni ne peut pour l'instant le faire, je crois que c'est un des défis qui est devant elle.
Pascal Lamy.
Que l'Europe n'ait pas envie de faire des conneries, moi je trouve ça plutôt pas mal. Quand même.
Pourquoi les conneries ?
On est des gens raisonnables.
Donald Trump dit « America first », on connaît le slogan.
Monsieur Trump accumule les bêtises, il se trompe surtout, et d'ailleurs, il ne fera pas la moitié du tiers du quart de ce qu'il a dit qu'il ferait, sauf à endommager l'économie américaine, ce qui commence d'ailleurs à se voir. Monsieur Trump se trompe, il exerce aujourd'hui sa puissance à des fins que nous détestons, il met fin à l'accord que nous avons signé pour mettre l'Iran dans la bonne voie sur le plan nucléaire. Il sort du Trans-Pacific Partnership, qui est quelque chose qui faisait beaucoup de sens du point de vue de la puissance américaine et qui laisse un tapis rouge à la Chine. Il veut construire un mur avec le Mexique, qui n'arrivera évidemment jamais à construire, et en tout cas pas à faire payer par les Mexicains. Donc, il est dans la parlance, c'est un populiste. C'est-à-dire qu'il délivre un capital politique revendicatif contre le pouvoir qu'il représente. Bon. Donc, que l'Europe ne soit pas tentée pour ça, tant mieux. Quels sont les moyens de contrer M. Trump ? Si M. Trump venait à endommager sérieusement les intérêts européens, ça, je n'en suis pas sûr. Et là, il y a un problème. Prenons un exemple. Les sanctions américaines sur l'Iran.
Oui.
Nous avons, avec les Américains, les Européens et d'autres, signé un traité qui permet aux Iraniens de s'ouvrir sur l'économie internationale, moyennement le fait qu'ils arrêtent leur programme nucléaire militaire. Bon. Les Américains sortent de là, mettent des sanctions sur ceux qui continuent à commercer avec l'Iran, dont nous. Bon. Est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens de rétorquer à ces sanctions ? Non. L'Institut Jacques Delors vient de publier un papier là-dessus pour faire le point. Aujourd'hui, l'euro monnaie internationale n'est pas assez fort pour s'opposer au dollar parce que le dollar est beaucoup plus une monnaie de réserve et beaucoup plus une monnaie de facturation. Il y a une faiblesse européenne là qu'il faudra, dans les années qui viennent, combler. Mais est-ce que la réponse, c'est de revenir à des dispositifs nationaux qui seront encore plus petits relativement face à des mastodontes pareils, ou est-ce qu'au contraire, il faut nous agréger et donner aux autres Européens qui n'ont pas forcément, comme nous Français, si je puis dire, le sens et le culte de la puissance, et je pense que les Français sur ce point ont raison, je pense que c'est quand même la bonne alternative.
Natacha.
Enfin, encore une fois, dire que Trump est méchant et qu'il fait mal, oui, oui, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et surtout, l'extraterritorialité du droit américain, elle n'a pas été créée par Donald Trump. C'est-à-dire que tous les processus d'impérialisme américain pour petit à petit affaiblir les pays européens et l'Union européenne avec le consentement de l'Union européenne, ça existe depuis un petit bout de temps. Et donc, bien sûr que l'euro n'est pas une monnaie de réserve, bien sûr que l'euro n'est pas une monnaie suffisamment puissante. Tout cela n'a pas été pensé justement parce que l'idéologie qui a prévalu dans l'Union européenne jusqu'à présent était celle du libre-échange. Vous dites, ah oui, le libre-échange est formidable, il faut juste le civiliser un peu. Ça ne se civilise pas.
J'ai jamais dit que le libre-échange était formidable. Jamais si. Je n'ai dit
c'est
ça.
C'est ce que vous venez de nous expliquer.
Je n'emploie jamais je n'ai employé l'expression libre-échange. Parce qu'elle ne veut rien dire.
Le processus, pas plus que protectionnisme.
C'est une expression polémique
pas plus que protectionnisme.
J'ai toujours parlé des vertus et des conditions de l'ouverture des échanges. Je crois aux vertus de l'ouverture des échanges à un certain nombre de conditions de justice internationale, de justice nationale, dont je reconnais qu'elles ne sont pas réunies dans un certain nombre de cas.
Vous employez aussi l'expression repli sur soi, par exemple.
Absolument.
Et on va justement essayer de comprendre si on est dans cette alternative mondialisation ou repli sur soi, si les termes sont aussi simples, Gilles.
Alors, monsieur Pardage, toutes les critiques sur Donald Trump de Pascal Lamy, on pourrait même en ajouter d'autres parce que sa politique budgétaire dans le cycle économique américain est d'une irresponsabilité absolument incroyable dont on paiera les conséquences dans quelques années.
Peut-être pas les Américains.
Si, les Américains aussi. Mais est-ce que, malgré tout, dans la relation à la Chine, la manière dont Donald Trump s'y est pris n'a pas permis de rééquilibrer? Et deuxième question. Quand on regarde, vous disiez la faiblesse européenne, est-ce que c'est pas une faiblesse qui est une faiblesse plus générale, c'est de s'être pensée beaucoup par rapport à elle-même et insuffisamment par rapport aux autres? Vous l'avez évoqué sur la question de l'euro, on l'avait évoqué la semaine dernière sur la question de la concurrence, on l'avait évoqué il y a plus longtemps sur la question des frontières. On réussit très bien les frontières intérieures, moins bien les frontières extérieures. Est-ce que c'est pas ça, maintenant, le premier défi de l'Union européenne, essayer de se penser non pas par rapport à elle-même, mais par rapport aux autres?
Pascal Lamy.
D'accord. Je suis d'accord avec ce constat. Je suis d'accord avec les conséquences qu'il faut en tirer. Encore une fois, Trump n'a pas tort sur tout. Et s'il veut réformer l'OMC, il a raison. S'il veut en sortir, il a tort, y compris d'ailleurs du point de vue de son propre pays, mais ça ne l'empêche pas de le penser. Donc, sur ce point, il n'a pas tort. Et sur le deuxième point que vient dénoncer Gilles Finkelstein, il est vrai que l'Europe, née d'un conflit mondial qui l'avait totalement traumatisé, avec une horreur de la guerre, des armes, des combats, des morts, ce qu'on conçoit d'ailleurs fort bien. Hein, moi, je suis né juste après la guerre. Mes grands-parents et mes parents m'ont toujours parlé de toutes ces horreurs. Bon. Tout ceci s'éloigne, et l'Europe, qui s'est voulue, au fond, un élève modèle, qu'on dirait post-westphalien, c'est-à-dire d'un monde régi non plus par des rapports de force, mais par des règles et par l'intégration économique, l'idée que l'intégration économique fait de l'intégration politique ne s'est pas révélée juste en Europe, et a fortiori, si je puis dire, dans le monde. Et donc, il faut revenir, dans les 20 ou 30 années qui viennent, à un concept un peu plus classique de puissance. Il y a des rapports de force. L'interdépendance économique les contraint, les bride. Et c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que la tension sino-américaine se transformera en guerre, comme le disent les historiens qui cultivent Thucydide. Je pense que l'interdépendance économique est assez forte. Il y aura de la déglobalisation entre les États-Unis et la Chine, notamment sur le plan technologique. Mais je pense que nous allons vers un monde où les rapports de puissance vont compter davantage. Et si on n'avait pas, si je puis dire, inventé l'intégration européenne il y a 70 ans, bah, il faudrait le faire maintenant.
Natacha.
Oui, enfin, tout dépend quel type d'intégration européenne elle a évolué dans l'histoire de l'Union européenne. Ne serait-ce justement que autour de cette fameuse conception de la préférence communautaire qui était à la base de l'idée d'une Union européenne et qui a totalement disparu au profit d'une ouverture, au profit justement de cette intégration globale des économies. Et la question finalement qui est sous-jacente, c'est la question de savoir si cette globalisation est réellement profitable, et profitable à qui? C'est-à-dire qu'il y a le jeu des puissances, mais il y a aussi le fait que cette uniformisation par la suppression des tarifs douaniers, par les normes, pour créer un grand marché global, ça se fait sur le dos des classes moyennes et des classes populaires des pays occidentaux.
Pas partout.
Et ça profite à la frange, aux 0,01% les plus riches. Non. Donc derrière le jeu des puissances, il y a aussi la question d'un système économique qui est en train de détruire les pays occidentaux.
C'est un peu caricatural, votre affaire. C'est un peu caricatural.
Disons que je résume ce qu'explique l'économiste Branko Milanovic.
Non. Écoutez, ne faites pas dire à Branko Milanovic, qui a inventé une courbe très intéressante. Milanovic, j'ai travaillé
alors
avec lui, je le connais.
Alors, pour que tout le monde
est en faveur de l'ouverture des échanges.
Pensez à moi.
Je pense, juste
citer Pascal Lamy, et ça va dans votre sens, Natacha. Dans les pays pauvres, la mondialisation enrichit aussi les pauvres, alors que dans les pays riches, elle n'enrichit que les riches au détriment des classes moyennes. C'est de vous, Pascal Lamy, et ça rejoint ce que disait Natacha.
Je nuance ça. Là où vous avez raison, Natacha Polony, c'est que l'Europe a ouvert ses échanges et les a ouverts. Pourquoi? En contrepartie du fait que les autres ouvraient les leurs.
C'est pas
du tout une ouverture unilatérale. La preuve d'ailleurs.
La Chine n'a pas totalement ouvert ses échanges.
Mais les importations chinoises ont cru beaucoup plus que les exportations chinoises depuis que la Chine est entrée à l'OMC. La preuve d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, elle avait un énorme excédent de sa balance commerciale extérieure et qu'aujourd'hui, ils sont quasiment équilibrés. Bon. Donc, les chiffres nous disent que l'entrée de la Chine dans le système international a profité au monde. Alors, vous avez parfaitement raison.
Mais à qui dans le monde ?
Non, mais vous avez parfaitement raison. Il y en a qui ont profité plus que d'autres. Mais ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont des systèmes sociaux corrects, qui redistribuent les gains, qui étalent au maximum, plus que d'autres, ces rapports entre les gagnants et les perdants, qui font en sorte que ce soit pas les plus faibles ou les moins qualifiés qui déroulent systématiquement, parce qu'il y a des systèmes de redistribution.
Vous pensez à quel pays? À la France, par exemple?
Au pays nordique. La France a une spécialité qui est de dépenser beaucoup dans le social, avec des effets qui, en tout cas sur l'ascenseur social, sont extrêmement limités. Mais l'Allemagne, les pays nordiques en Europe, pas les États-Unis, parce qu'effectivement, ils ont un système social très très médiocre par rapport à leurs revenus par tête. Et c'est d'ailleurs normal que ce soit là que ça ait pété. C'est normal que c'est à l'endroit des pays développés où le système social est le plus faible qu'un gars comme Trump ait été élu. Alors, encore une fois, l'Europe, c'est pas pareil. Nous avons en Europe des systèmes sociaux beaucoup plus consistants. Nous avons une tolérance aux inégalités qui est beaucoup moins forte. Il faut consolider ce modèle, qui est un modèle d'économie sociale de marché, comme on dit, ce qui n'est pas du tout le modèle américain, qui n'est pas d'ailleurs non plus le modèle chinois. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Mais une grande partie des effets de la mondialisation, douloureux pour certaines catégories de la population, c'est une affaire de politique domestique, interne. C'est au pays de se débrouiller pour que leur fiscalité, leur régime de sécurité sociale, vous allez
que ça se passe au détriment des classes moyennes, comme le disait Natacha, c'est une question nationale, c'est une question qui est d'ordre interne à la France.
C'est pas l'OMC qui va, ou une institution globale qui va décider combien on redistribue, combien on met d'impôts et combien on met de cotisations sociales sur la production.
Alors il y a quand même un effet global de la mondialisation qui est le rééquilibrage entre les différentes zones du monde et le fait que, globalement, notamment le poids relatif de l'Union européenne dans l'économie mondiale diminue. En revanche, vous avez raison de dire qu'on fait porter à la mondialisation une responsabilité sur ce qui, pour beaucoup, relève des préférences politiques nationales. La France choisit les préférences politiques qui privilégie la redistribution, d'autres pays davantage l'ascenseur social, mais de ce point de vue-là, l'Europe se distingue malgré tout du reste du monde.
Mais qu'est-ce que vous faites de la sécurité culturelle dont parle Pascal Lamy d'ailleurs dans son livre et dont on n'arrête pas de parler depuis le début des mouvement des Gilets jaunes?
C'était justement mon point.
La perte de contrôle, la dépossession, l'incapacité à maîtriser les excès.
Ce qui est très frappant, c'est que vous accordez une grande importance à la géoéconomie quand Nicole Gnezotto, avec laquelle vous dialoguez, insiste davantage sur la géopolitique. Vous êtes davantage du côté de la raison économique, elle davantage du côté de la passion politique. Vous disiez tout à l'heure que l'interdépendance économique, d'une certaine manière, prémunit contre les erreurs. Ou en tout cas, une espèce de filet de sécurité. Est-ce que le Brexit n'est pas un magnifique contre-exemple?
Bah pas du tout.
De ça?
Au contraire.
Pascal Lamy.
Mais
au contraire.
On voit que les passions politiques, ça peut primer.
Non, mais non. Brexit est en train de démontrer que les pressions politiques n'arrivent pas à primer sur l'interdépendance économique. Les Anglais, œufs de l'omelette européenne, n'arrivent pas à se sortir de l'omelette. Ils n'y arrivent pas. Ils essayent, ça fait 2 ans et demi qu'ils se battent avec ce problème. Entre eux d'ailleurs, hein, pas tellement avec nous. Mais justement, ils n'y arrivent pas. Le Brexit, c'est un parfait exemple d'une tentative de mini-déglobalisation, comme les aiment les souverainistes, les populistes, sauf que, pour l'instant, ça ne marche pas. Le seul résultat du Brexit, pour l'instant, ça a été d'endommager sérieusement l'économie britannique. Tout le monde le reconnaît, la Banque d'Angleterre le publie tous les jours, il y a moins d'investissement, il y a moins de croissance. Évidemment, ils ont fermé les portes à un certain nombre de travailleurs étrangers, et donc l'économie anglaise marche moins bien. Pour l'instant, le Brexit, c'est un fiasco. Cette tentative de déglobalisation, mini, ça marche pas.
Natacha.
Bon, y a deux choses sur lesquelles il faudrait revenir sur le Brexit, mais on n'aura sans doute pas le temps. C'est la question d'abord de savoir pourquoi ça ne marche pas, si c'est pas aussi parce que tout le monde a fait en sorte que ça ne marche pas. Et deuxièmement, la question démocratique qui se pose derrière. Parce que moi, je veux bien qu'on m'explique que ils ont beau le vouloir, ça ne peut pas. Ça pose une légère question autour de ce qui s'appelle donc la démocratie. Mais je voudrais revenir plutôt sur autre chose, sur la question du sens de la mondialisation et de ses effets. Il me semble que le phénomène le plus frappant dans les pays occidentaux et dans un pays comme la France notamment, c'est le phénomène de désindustrialisation, dont on observe en particulier qu'il s'est largement accéléré, notamment après l'entrée de la Chine dans l'OMC et l'abaissement de toutes les barrières douanières de l'Union européenne, par exemple sur le textile chinois. On voit comment directement, en l'espace de 2 ans, l'industrie textile en France est éradiquée. Et cette destruction d'emplois dans des endroits précis, qui sont des villes moyennes, provoque ensuite le fait que le dernier employeur dans ces endroits-là, c'est l'État, les hôpitaux, les casernes. Ensuite, l'État n'a plus d'argent parce que justement le système économique fait que les rentrées d'impôts qu'il pouvait avoir ne se font pas puisqu'il y a possibilité d'évasion fiscale. Vous avez une perte de substance de l'État qui est obligé de se retirer et dans ces territoires-là, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que la globalisation, elle marche pour certaines classes sociales et dans certains territoires et elle est absolument catastrophique ailleurs, et c'est ce déséquilibre que nous sommes en train de voir, notamment en France.
Pascal Lamy.
Oui, c'est un raisonnement intéressant, mais qui ne parle que de l'industrie. 70% de l'économie aujourd'hui, c'est les services. Et le commerce international joue un rôle considérable dans les services. Donc, il n'est pas faux que dans un certain nombre de cas, il y a moins d'emplois dans l'industrie. Il n'y a pas moins de production industrielle. Hein. La France a une production industrielle beaucoup plus importante que celle qu'elle avait il y a 10 ou 20 ans. Simplement, il se trouve que la productivité dans l'industrie est beaucoup plus forte que la productivité dans les services. Bon, évidemment que l'industrie a régressé. L'important, c'est l'emploi et la qualité de l'emploi.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pas seulement l'emploi, c'est quel type d'emploi et c'est le travail derrière l'emploi.
Dans une économie moderne, l'important, c'est l'emploi. Le problème de la France, c'est qu'il y a 10% de chômage. C'est très peu lié aux questions industrielles. Le vrai problème de la France, c'est que le marché du travail ne fournit pas des emplois, il y en a besoin, et forme des gens dans des secteurs où il n'y en a pas besoin. Il suffit d'ailleurs de comparer la France à ses voisins pour voir où est notre problème. Ce n'est pas un problème global, ce n'est pas un problème de la globalisation. Il y a des pays en Europe qui ont beaucoup moins de chômage que nous, et en général, c'est parce qu'ils s'y sont mieux pris que nous.
Gilles, quelle conclusion on en tire?
La conclusion que j'en tire, c'est que une partie de la solution, elle n'est pas dans des usines qui fument, elle est dans la digitalisation de l'économie, et c'est là qu'il faut se dépêcher de rattraper une partie du retard qu'on a pris en tant qu'Européens. Je pense que ça viendra, mais il faut investir lourdement dans ces domaines.
Natacha.
Alors, vous occultez le problème du déséquilibre entre les territoires. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des usines qui fument. Je suis en train tout simplement de constater que les emplois industriels créent beaucoup plus de valeur ajoutée que les emplois de service et que dans les emplois de service, la question est de savoir de quel type d'emploi on parle. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut penser le travail en plus de l'emploi. C'est-à-dire que là, le système que nous sommes en train de mettre en place crée certes des emplois à très forte valeur, des emplois qui nécessitent de très hautes compétences, mais finalement pour une minorité de gens. Et ce que nous voyons, c'est que dans ces endroits où a frappé la désindustrialisation, où l'agriculture a périclité parce qu'elle s'est industrialisée elle aussi, où vous n'avez pas suffisamment de richesses parce que le territoire n'est pas aménagé pour ça, et bien là, les emplois de service que vous créez, ce sont des emplois qui sont des emplois de piètre qualité. Ce sont des emplois qui ne permettent ne permettent pas pas aux gens de vivre et qui donc appauvrissent parce qu'ils ne donnent pas suffisamment de pouvoir d'achat. Et c'est ça qu'on est en train d'observer aujourd'hui en France.
Pascal Lamy.
Je suis tout à fait d'accord sur le fait que la France a un problème difficile d'équilibre territorial qui est d'ailleurs dû à sa géographie, malheureusement. C'est un pays charmant qui attire beaucoup de gens parce que la densité est relativement faible. Simplement, elle est parfaitement répartie. Et donc, l'économie et la société française ne peuvent fonctionner qu'avec des réseaux, notamment de transport, de distribution extrêmement maillés, qui sont coûteux. Bon, il faut le reconnaître, c'est comme ça. Donc, vous avez tout à fait raison. Et il y a une réalité dans le fait que, dans l'économie digitale, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'économie se dématérialise, et c'est ça le cycle historique dans lequel on est, les villes fonctionnent mieux que les campagnes. Et que le rêve qu'on avait, en tout cas un certain nombre de géographes il y a 30 ou 40 ans, que Internet c'était le travail à domicile et que donc il n'y aurait plus de problème ville-campagne, ça ne marche pas, parce que les villes sont beaucoup plus efficaces que les campagnes dans l'ère de la digitalisation. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter de payer des frais généraux de la France, il faut investir là-dedans, ça va coûter bonbon, et il faut le faire pour des raisons sociales, et donc il faut que notre économie soit capable de supporter cette charge qui est l'entretien des réseaux du territoire.
Vous voulez dire par exemple qu'il faut que la SNCF ne soit pas conçue comme une entreprise devant faire du profit, mais comme un service public.
Écoutez, je prends le train comme vous de temps en temps, on ne peut pas reprocher à la SNCF de ne pas desservir les territoires français. Je prends le train de temps en temps et je garantis que j'en prends des vides. Mais alors, dès que je sors des grandes lignes qui relient Paris, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Marseille, les trains que je prends, sauf aux heures de pointe et autour des conurbations, ils sont vides.
Parce que quand que vous la avez SNCF, deux échanges par jour,
SNCF,
les gens ne prennent plus le train.
C'est perdre de l'argent pour irriguer les territoires. C'est, en tout cas, moi, c'est ce que je constate.
Question toujours sur la mondialisation. À propos de la mondialisation, est-ce que, d'après vous, il faut continuer à négocier des accords commerciaux comme le TAFTA, comme le CETA? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans l'interdépendance des économies et des échanges commerciaux?
Quand on est européen, oui. Pourquoi? Parce que les perspectives de croissance européennes, dans les 10-15 ans qui viennent, en gros, c'est 1,5% de croissance par an. Les perspectives de croissance mondiale, c'est à peu près 5% par an. Ça veut dire que l'essentiel de la croissance des marchés dans ce monde, là où les économies se développent, là où les gens atteignent la classe moyenne, c'est ailleurs que chez nous. Et donc, il faut aller puiser de la croissance là où il y en a, dans la mesure où il y en a plus que chez nous. Si c'était 5% pour l'Europe et 1,5% pour le monde, je ne répondrai pas de la même manière à votre question.
Natacha, il reste très peu de temps.
Est-ce que ça doit se faire au détriment des classes moyennes qui sont ici? C'est formidable
de faire
des échanges pour développer les classes moyennes ailleurs, mais ça se fait au détriment.
Mais c'est toujours pareil.
Pascal Lamy.
Vous considérez que c'est l'ouverture des échanges qui démolit les classes moyennes. Moi, je considère que l'ouverture des échanges crée de la croissance, crée un solde positif, et que s'il est réparti correctement,
Mais il n'est pas réparti correctement, et c'est le problème que nous rencontrons.
Et ça n'est pas, encore une fois, le problème de l'ouverture des échanges, c'est le problème des systèmes sociaux et de la qualité des systèmes de gouvernance domestique. Mais ne mettez pas sur le dos de l'ouverture des échanges, qui, chacun sait, est efficace. Si je fais quelque chose mieux que vous, et que vous faites quelque chose mieux que moi, on a intérêt à l'échange.
Un mot, Gilles.
Il est très simpliste.
Est-ce qu'un des effets de cette multiplication des accords commerciaux bilatéraux ou entre grandes zones ne revient pas finalement à faire le deuil de ce que pourquoi vous avez milité pendant des années, c'est-à-dire un système commercial international qui soit davantage régulé?
Pascal Lamy, ce sera le dernier mot.
C'est une question qui se pose souvent. Il n'y a aucune contradiction entre l'ouverture des échanges faite unilatéralement, bilatéralement, régionalement et multilatéralement. Là, il faut être. Si on est pour l'ouverture des échanges, on élimine petit à petit les obstacles à l'échange, sous un certain nombre de conditions. Et là, je suis avec les Chinois, peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape des souris, peu importe que ce soit multilatéral, régional, bilatéral, une ouverture raisonnée des obstacles, enfin une réduction raisonnée des obstacles à l'échange, à un certain nombre de conditions sur lesquelles a insisté Natacha Polony, c'est quand même en gros. Dans les 20 à 30 ans qui viennent, si on est européen, la bonne direction, évidemment, il y a des conditions qu'il faut réunir.
Quoi ? Notre amour fou ne resterait qu'au descendre.
Eh oui, Pascal Lamy, puisque vous citez Jane Birkin, Serge Gainsbourg dans votre livre.
J'aimerais que tes arrêtes pour descendre.
J'aimerais que la Terre c'est s'arrête vous, pour descendre.
Natacha Polony, c'est vous, ça, vous voulez descendre de l'avion.
Justement, alors là, vous voyez, c'est, là, on est dans la caricature absolue. Vous me sortez les usines qui fument, le repli,
je
vous
rigole,
voulez descendre. Eh bien non, c'est exactement le contraire. C'est que je pense qu'il n'y a pas de fatalité au choix que vous nous présentez et qui donne un résultat calamiteux.
Absolument, mais ça, j'en suis d'accord.
Le débat était passionnant et la chanson est magnifique.
Elle est superbe.
Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre.
Merci Pascal Lamy d'être venu participer au grand face-à-face de France Inter. Où va le monde avec Nicole Gnessoto? C'est publié chez Odile Jacob. Natacha Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Soignez-vous bien Gilles. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Claire Destacan, à la technique Ludovic Asselot. Et quant à moi, je vous dis à demain midi pour Questions politiques. À suivre sur France Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.